Débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour et bienvenue, heureuse d'être à nouveau avec vous cette semaine pour le débat BBC Afrique, Africa Radio. Bonjour Francis Laloupo.
Bonjour Liliane, j'espère que vous allez bien et que vous avez récupéré définitivement de vos vacances.
Ah oui, je vous le confirme. Et malheureusement, je repars la semaine prochaine.
Mais voilà, cette comme fois ça, pour... tout le monde le sait.
Voilà, mais je serai de retour très bientôt, Francis.
J'espérais évidemment que vous fassiez l'annonce, vous l'avez faite. C'est fait. Au sommet de cette édition, d'abord la Guinée-Conakry avec cette question. Le président Alpha Condé est-il désormais dos au mur avec les conclusions sans appel des experts de la CEDEAO sur le fichier électoral, Liliane?
Après avoir épluché le dit fichier, Francis, les experts de l'organisation ouest-africaine ont observé des anomalies et formulé des recommandations dont la principale concerne les plus de 2 millions d'électeurs enregistrés sans aucune pièce justificative. Une conclusion qui va dans le même sens que celle déjà faite par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Pour l'instant, la classe politique réagit vivement à ce rapport. Quelles conséquences éventuelles sur le processus électoral dont le référendum sur la constitution voulu par le président guinéen analyse?
Autre sujet dans cette édition, encore des civils tués au Burkina Faso cette semaine dans des attaques attribuées à des groupes armés et des habitants désemparés qui fuient par centaines les localités ciblées.
Et cette fois, une polémique enfle sur les auteurs des attaques de dimanche à lundi dernier dans la province du Yatenga, dans le nord du Burkina Faso. Le gouvernement souligne qu'elles ont été perpétrées par des individus armés non identifiés, mais d'autres sources remettent en cause cette version. Mais la préoccupation reste la fin de ces tueries dans ce pays régulièrement ciblé par des attentats malgré les mesures prises par les autorités de Ouagadougou.
Et enfin, Liliane, une préoccupation mondiale. L'OMS qui a déclaré mercredi l'épidémie du Covid-19 comme une pandémie désormais, alors que le virus avance en Afrique, un continent désormais en état d'alerte.
Nous sommes extrêmement préoccupés tant par le niveau alarmant et par la sévérité de la propagation que par le niveau d'inaction, a affirmé le directeur général de l'OMS lors d'une conférence de presse mercredi. Au moment où nous enregistrons l'émission jeudi, la Côte d'Ivoire annonce son premier cas de contamination. Le continent est-il à ce stade en alerte rouge? Nous en parlerons. À présent, le plateau avec vous, Francis Laloupo.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Conakry, Abdoul Gadiri Diallo, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, l'OGDH. Abdoul Gadiri Diallo, bonjour.
Bonjour.
Abdoul Gadiri Diallo, expert consultant en gouvernance, démocratie et droits de l'homme. Vous êtes le coordonnateur du réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme et, entre autres missions, vous avez été de février 2016 à juillet 2019 expert de l'Union africaine pour l'observation des droits de l'homme au Burundi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et un confrère invité également dans cette édition, au téléphone depuis Ouagadougou, Serge Houlon. Serge, bonjour.
Oui, bonjour.
Serge Houlon, directeur de l'application du mensuel L'Événement, auteur de l'ouvrage « Comprendre les attaques armées au Burkina Faso, profil et itinéraire des terroristes », c'est chez Émile Sia éditeur. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Voilà pour le plateau, Liliane. Premier sujet donc, la Guinée.
La Guinée. Oui, Francis, c'est la synthèse de la mission des experts de la CEDEAO, la communauté qui réunit les pays d'Afrique de l'Ouest, renforce le doute et la suspicion de l'opposition quant à la crédibilité du processus électoral en préparation. Est-ce que cette synthèse donnera le coup de grâce à ce processus? Les experts recommandent, en raison de diverses anomalies, le retrait de plus de 2 millions de noms des listes électorales avant les prochaines élections dont on ignore la nouvelle date. Que dit exactement ce rapport de la CEDEAO? Précision jeudi de Nadège Sinarinzi de BBC Afrique.
Près de 2,5 millions de noms, soit près d'un tiers des noms du fichier électoral, posent problème, peut-on lire dans un communiqué publié hier par la mission de la CEDEAO. La mission relève également d'autres anomalies, notamment des noms n'ayant pas de date de naissance ou des doublons, une violation du code électoral guinéen, expliquent les experts de la CEDEAO. Ils ajoutent, je cite, une nouvelle liste d'émargement à côté des listes de radiation empêchera ou limitera l'usage des surplus de cartes. Dans un communiqué, la commission électorale souligne avoir adopté à la majorité de l'ensemble des recommandations de la mission. Cependant, elle ajoute ignorer combien de temps il faudra pour les mettre en œuvre. Il y a quelques semaines, l'Organisation internationale de la francophonie avait jugé problématique 2,49 millions de noms inscrits sur les listes. L'organisation régionale, la CEDEAO, a dépêché en Guinée une équipe d'experts avec pour mission d'aider le pays à sortir de la crise politique née autour de l'organisation des élections couplées référendum à des élections législatives. Le scrutin prévu au départ le 1er mars a été reporté par le chef de l'État Alpha Condé pour une date non encore connue. L'opposition guinéenne avait décidé de boycotter ce scrutin, arguant que le fichier électoral a été truqué et disproportionné par rapport à la population du pays.
Alors, Monsieur Abdoul Kadiri Diallo, que vous inspire ce rapport de la CEDEAO dont vous venez entendre la synthèse? Est-ce que vous êtes surpris et pour vous, est-ce qu'il constitue le coup de grâce pour les législatives et surtout le référendum?
Je ne suis pas du tout surpris du fait que à l'interne même, on avait déjà identifié un certain nombre d'anomalies et un certain nombre de preuves qui nous amenaient à comprendre que le fichier était corrompu. Je vous donne un exemple simple. Celui qui fut le premier ministre de la transition pour préparer les élections de 2010, M. Jean-Marie Doré, il est décédé entre-temps. Et voilà que dans le fichier électoral en vigueur aujourd'hui, son nom a été retrouvé parmi les personnes enrôlées. Et qu'est-ce qui fait que sa présence a été remarquable? C'est parce qu'il a été premier ministre dans ce pays, il n'a pas été des moindres. Mais quid des anonymes qui, comme M. Jean-Marie Doré, figurent sur cette liste électorale?
Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un homonyme, peut-être?
Il est la réponse même que la directrice des opérations de la CENI nous a donnée, nous amène à comprendre qu'il s'agit de cette personne-là, dans la mesure où elle a dit ceci. Monsieur Jean-Marie Doré, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il a été une personnalité, une éminente personnalité en Guinée, mais que ce n'est pas à la CENI de le radier s'il est décédé, c'est à la famille de déclarer que monsieur Jean-Marie est décédé et qu'il le radie. Donc c'est autant dire que l'on avait conscience du fait que c'est le même monsieur Jean-Marie Doré qui était dans la liste, et dans le fichier et qui n'avait pas été radié. Et si nous prenons d'autres cas, on est amené à se demander combien de monsieur Jean-Marie Doré anonymes figurent sur le fichier électoral et qui n'ont pas été répertoriés.
C'est-à-dire des personnes décédées.
Des personnes décédées, des personnes qui ne sont plus dans cette zone ou qui sont dans une autre zone. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un neveu qui était sous ma tutelle. À un moment donné, il s'est affranchi de ma tutelle. Il s'est trouvé un logement dans un quartier en dehors de la commune où je suis. Non seulement il n'a pas été radié du quartier d'où il est, mais il était encore enrôlé dans le quartier où il est allé. Et lorsqu'il a été question justement de prendre les cartes électorales, qu'on a découvert qu'il était inscrit deux fois.
Merci.
Combien de personnes comme celle-là sont inscrites plus d'une fois? On n'en sait pas. Et lorsque les gens disent qu'il y avait plus de 2 millions d'électeurs fictifs, il y a de quoi s'en émouvoir.
Près de 2 500 000.
Voilà.
Ok. Merci. Francis?
Et monsieur Abdoul Kadiri Diallo, d'abord, afin de revenir au sujet, en tant qu'organisation des droits humains, quel rôle vous pouvez jouer précisément dans le contexte actuel de votre pays? Est-ce qu'il s'agit de donner seulement l'alerte, tenir simplement la terrible comptabilité des victimes de cette crise? Quel est le rôle d'une organisation, d'une ONG comme la vôtre dans ce contexte?
Au sortir de cette interview que nous sommes en train de mener, les collègues des organisations de défense des droits de l'homme qui évoluent sur le terrain attendent qu'on ait une réunion pour discuter de l'attitude à adopter vis-à-vis de cette situation globale qui prévaut en Guinée. Mmh. C'est en réalité cette interview qui fait que je ne suis pas présent à la réunion qui est convoquée et qui est en train de se tenir maintenant.
D'accord.
Mais il est indéniable que nous allons prendre des dispositions et nous allons ensemble nous concerter pour prendre des décisions qui pourraient nous amener peut-être passer d'une étape A à une étape B.
Oui, l'étape A, c'est celle dans laquelle on est aujourd'hui.
Et l'étape... On est aujourd'hui et l'étape B, c'est peut-être les dispositions à prendre pour qu'on ne soit plus confronté à des situations de crise comme celle-là, étant donné que même l'audit qui a été organisé par la CEDEAO indique qu'il y a des problèmes qui font que les élections ne peuvent pas se tenir avec ce fichier électoral.
D'accord. D'accord. Alors, la CEDEAO...
Excusez-moi, Francis, est-ce que par conséquent, vous dites que ce rapport est un coup de grâce et que le processus doit s'arrêter net dans votre pays?
Moi, je crois que si les dirigeants politiques de ce pays sont raisonnables, si le gouvernement veut faire preuve de beaucoup de souplesse, ces conclusions tirées par la CEDEAO devaient mettre un coup, un arrêt systématique au processus électoral pour que la situation soit rétablie dans l'ordre et que l'on puisse convoquer des élections dans les conditions requises.
Les conditions qui ne sont pas donc réunies aujourd'hui. Alors, il faut rappeler donc que la CEDEAO, l'Union africaine, la francophonie, ont pointé du doigt le fichier électoral pour ce qui a contraint le pouvoir guinéen donc à ce report des élections législatives et du référendum. Mais ma question est celle-ci, Monsieur Diallo. Derrière les questions techniques qui ont été évoquées par ces organisations, est-ce qu'il n'y a pas surtout, je dirais, une condamnation plus politique de la part de ces organisations? Est-ce que ce n'est pas, au fond, la tentation du troisième mandat qui est indirectement condamnée par elles?
Bon, je ne peux pas l'affirmer à ce jour, parce que de toute façon, il n'y a pas eu une déclaration publique des organisations concernées quant au troisième mandat. En fait, si vous voyez bien, les organisations régionales et sous-régionales qui n'ont pas voulu se positionner l'ont fait parce que nulle part, M. le Président de la République n'a exprimé son souhait de se présenter pour un troisième mandat.
C'est ça. C'est ça.
La seule chose qu'il a eu à dire, c'est qu'il veut changer la Constitution. Et nous, à l'intérieur, on sait par principe que si ça se passe comme ça, c'est qu'il a l'intention de briguer un troisième mandat.
Si vous le savez, à l'intérieur, ça n'a pas échappé non plus à ces organisations qui ne peuvent pas condamner la tenue, qui ne peuvent pas condamner la tenue d'un référendum, mais qui peuvent indirectement adopter une position politique en prenant comme prétexte le fichier électoral.
Bon, je ne suis pas très sûr que cette démarche soit rejetée, mais je ne l'ai écartée du moins, mais je ne peux pas aussi la considérer comme étant une démarche idoine pour ces institutions. Mais je pense qu'aujourd'hui, ni le référendum, ni les élections législatives ne peuvent se tenir avec un fichier corrompu comme celui que nous avons actuellement. Donc, par ricochet, on peut estimer que si les autorités des institutions régionales et internationales qui ont été sollicitées expriment les mêmes doutes, c'est que, de manière raisonnable, les autorités guinéennes doivent comprendre qu'elles sont en train d'aller droit au mur.
Francis, je propose qu'on écoute notre confrère Serge sur ce rapport de la CEDEAO qui, on va parler de synthèse, hein, puisqu'il n'est pas exhaustif le rapport, qui intervient aussi après des conclusions quasi similaires faites par l'Organisation internationale de la francophonie, toujours sur le fichier électoral, Serge.
Il faut dire que l'information, déjà a priori, c'est de s'étonner un peu du caractère un peu tardif parce que c'était le report de l'élection qui devrait se dérouler il y a deux semaines, décidé par le président guinéen Alpha Condé.
D'abord annoncé le 1er mars, puis renvoyé à deux semaines plus tard. Et finalement, pour l'instant, il n'y a pas de date.
C'est ça. S'il n'y avait pas eu ce rapport, on se demandait à quoi va servir en fait ce rapport produit par les experts de la CEDEAO. Mais toujours est-il qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Et on estime que au niveau des experts, c'est un rapport à prendre en compte, évidemment, et on estime que du côté des autorités guinéennes, qu'on puisse lire et puis essayer de mettre en application. On se dit certainement que les éléments qui ont été relevés sont des aspects assez pratiques, vérifiables, et il n'y a pas de doute que ce sont des éléments sur lesquels il faudrait corriger si on veut un processus électoral sans contestation. Mais déjà, dans ce contexte d'accusation et d'intention prêtée au président guinéen, Je pense que s'inspirant de l'exemple burkinabé, c'est toujours bon qu'on tienne compte aussi de la réprobation presque générale au niveau du peuple guinéen pour faire de telle sorte qu'il y ait quand même un processus. S'il y a changement de constitution, parce que de ce que nous entendons et suivons de l'extérieur, c'est que au niveau de l'opposition ou de la société civile, sur le principe du changement de constitution, il n'y a pas de débat, mais on se dit pourquoi maintenant et que le président Condé décide de le faire. Il a eu 9 ans, il n'a pas pu le faire, il attend maintenant à la veille de la fin de son dernier mandat pour le faire.
Donc, et cela crée selon vous des suspicions.
Alors, voilà, donc ça, ce n'est pas de nature à créer un climat de sérénité, un climat de confiance pour que les différents acteurs puissent de façon sereine effectivement procéder à un toilettage de la constitution. Si tant est que le peuple guinéen estime qu'il y a quelque chose à toiletter, mais tant que le calendrier électoral est mis en œuvre, tant qu'il y a comme une initiative au forceps du côté des autorités guinéennes, évidemment, ça nourrit la suspicion et ce n'est pas de nature à avoir un processus électoral assez consensuel pour tous les acteurs.
Merci, et crédible. Merci beaucoup, Serge. Monsieur Kadiri Diallo, est-ce que vous avez une réponse à la question ou à l'observation faite à l'instant par Serge qui se demandait pourquoi la CEDEAO a attendu aussi longtemps pour commettre ce rapport et finalement s'exprimer sur le fichier électoral en Guinée? Pour vous également, vous pensez que la CEDEAO intervient un peu tardivement?
En fait, nous avions toujours demandé où se trouvait la CEDEAO, où se trouvait l'Union africaine, quand toutes les tergiversations qui ont coûté la vie à plus de 30 morts se sont invitées dans le débat politique guinéen, alors qu'il fallait absolument qu'on entende la CEDEAO et l'Union africaine du fait qu'il y a des textes juridiques internationaux adoptés par la CEDEAO et l'Union africaine. Il s'agit du protocole de la CEDEAO sur les élections, il s'agit de la charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. On s'était demandé pourquoi tout ce temps-là, ce mutisme de la CEDEAO, de l'Union africaine. Mais qu'à cela ne tienne, mieux vaut faire ce qu'on est en train de faire maintenant, de continuer à garder le silence. Mais je voudrais relever quand même que les reports successifs de ces élections sont les conséquences d'un certain nombre de prises de position qui n'ont peut-être pas été publiques, mais qui ont amené les autorités guinéennes à comprendre qu'elles allaient droit au mur. Donc on peut espérer que peut-être il y a eu des pulsions internes qui ont amené le président de la République à repousser deux fois les élections.
Et est-ce qu'on peut envisager un abandon pur et simple de la part du président Alpha Condé à la suite de ce rapport?
Ce serait la décision la plus sage qu'il pourrait prendre s'il décidait d'abandonner parce qu'il se rend compte qu'il était en train de surfer sur un fichier corrompu. Ce serait la sagesse. Et nous pensons que c'est ce qu'il faut pour qu'il sorte par la grande porte de l'histoire. C'est l'abandon pur et simple de tout ce qu'il est en train d'envisager maintenant. Et ne pas écouter les sirènes révisionnistes. Cela lui a été dit à son investiture en 2015. Il est important qu'il comprenne que chaque homme a un rôle à jouer dans ce monde-là et il doit s'arrêter à un moment donné et les textes lui imposent de s'arrêter.
Merci beaucoup. Francis, je pense que dans quelques instants, on va marquer une pause et nous poursuivrons encore quelques minutes le débat sur cette synthèse faite par la CEDEAO, la mission d'experts de la CEDEAO sur le fichier électoral en Guinée. Et nous allons donc poursuivre avec notre invité. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
En duplex à Dakar et Paris, débat BBC Afrique, Africa Radio, avec notre grand témoin invité aujourd'hui, au téléphone depuis Conakry, Abdoul Kadiri Diallo, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, l'OGDH, et au téléphone depuis Ouagadougou, Serge Oulon, directeur de la publication du bimensuel L'Événement. Abdoul Kadiri Diallo, je voulais votre sentiment sur cet événement tout à fait inédit. Plusieurs partis de l'opposition et certaines organisations de la société civile de Guinée-Conakry ont engagé une procédure judiciaire inédite, donc une action en responsabilité contre la CEDEAO et ses 15 pays membres accusés notamment d'avoir, je cite, « manqué à leur obligation de protection des droits de l'homme, de préservation de l'ordre constitutionnel et des acquis démocratiques ». Fin de citation. Et la première audience a eu lieu ce 12 mars à Abuja. Est-ce que vous pensez, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette action globalement et est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir un impact sur la situation de crise en cours dans votre pays?
J'avoue que, en désespoir de cause, les organisations de la société civile et toutes les forces vives, notamment les partis politiques d'opposition qui se sont regroupés autour du FNDC, ont estimé qu'il fallait faire feu de tout bois pour essayer de trouver une solution à cette crise qui n'avait pas l'impression d'intéresser un peu la communauté internationale. Mais l'attitude adoptée par la CEDEAO et la discrétion que nous avons observée au niveau de la CEDEAO a amené l'opinion nationale guinéenne à se demander si ce n'est pas un abandon. Et comme on sait que la Guinée est partie au protocole de la CEDEAO sur les élections, et que ce protocole a un certain nombre de principes qu'il faut absolument appliquer. Quand on sait qu'au niveau universel, la Guinée est partie au pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l'ensemble des États partis de la CEDEAO sont partis à ce pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou à la Convention contre la torture et à tous les instruments juridiques internationaux protégeant la personne humaine, que la CEDEAO même dans sa charte fonde toute son action sur une synergie d'action entre tous les États membres.
Par conséquent, que faut-il attendre de cette action judiciaire?
Je disais, alors
que faut-il en attendre?
De cette action judiciaire?
Oui.
Nous espérons que la Cour de justice de la CEDEAO dira le droit, parce qu'elle a toujours prouvé son indépendance face à la toute-puissance des États membres de la CEDEAO.
C'est-à-dire condamner en premier lieu la Guinée, qui est l'un des 15 États membres, l'État incriminé.
En principe, c'est condamner d'abord la Guinée, parce que c'est l'État incriminé, et c'est l'État par lequel, aujourd'hui, la CEDEAO se sent incriminée.
Alors, Monsieur Diallo, vous avez tout à l'heure déploré le silence longtemps observé par la CEDEAO. Vous avez également dénoncé ce que vous appelez le silence de l'Union africaine. Quid de l'attitude des Nations Unies? On a vu Im Chambas, son représentant en Afrique de l'Ouest, multiplier les déplacements en Guinée, rencontrer les acteurs politiques. Comment appréciez-vous aujourd'hui l'attitude des Nations Unies concernant la crise politique que connaît votre pays depuis plusieurs mois?
Nous trouvons que même les Nations Unies, dans leur façon, dans leur démarche, ont fait preuve de beaucoup de retenue. Et c'est pour cela que dans une de nos déclarations, on a interpellé la communauté internationale et on leur a dit que l'on ne peut pas attendre qu'il soit trop tard pour intervenir. Il faut intervenir au moment où on peut éteindre le feu, mais pas attendre qu'il y ait un embrasement pour pouvoir faire le sapeur-pompier. Et dans une de nos déclarations, on est allé jusqu'à dire la situation de crise que vit la sous-région ouest-africaine. Que nous prenions le Burkina Faso, le Mali, le Niger et autres.
La Guinée-Bissau.
Où le phénomène du Boko Haram est en train, du djihadisme est en train de créer tous les malheurs du monde. On ne va pas quand même laisser la Guinée aussi créer les conditions d'un embrasement interne du fait d'une action politique qui est contraire aux règles de droit.
Et aujourd'hui, donc vous êtes en train de nous dire que les résultats que vous obtenez aujourd'hui, notamment le déploiement d'une mission d'experts de la CEDEAO, est le fruit des efforts de la classe politique guinéenne. Alors les anomalies qui ont été relevées, est-ce que vous pensez qu'elles peuvent être corrigées à temps pour pouvoir maintenir les élections, même si aujourd'hui on ne connaît pas la nouvelle date? Ou alors vous pensez que telle que la situation a été décrite, telle que le rapport a été formulé, présenté, il n'y a plus aucun moyen d'autre que d'annuler complètement ce processus?
Moi, je crois qu'entre l'embrasement de la Guinée et l'impératif du respect d'un calendrier électoral, il faut préserver d'abord la Guinée de l'embrasement. C'est quand on aura essayé d'atténuer tout ce qu'il y a comme contradiction interne qu'on peut réfléchir à une forme d'élection quelconque. Moi, je crois que la priorité aujourd'hui, c'est de remettre tout en question
Mais la commission électorale estime qu'on pourrait bien corriger ces anomalies et tenir les élections.
Mais c'est encore cette même commission électorale qui a créé ce bordel. C'est encore cette même commission électorale qui nous disait que non, ceux qui sont recensés sont effectivement des personnes qui sont là. Et nous ne pouvons pas comprendre que cette commission électorale puisse nous trouver dans un pays de 12 millions d'habitants. Plus de 7 millions d'électeurs. Alors qu'au même moment, les statistiques nationales élaborées par les services publics compétents disaient que plus de 50% de la population n'a pas encore atteint la majorité en Guinée. Entre ce que nous donne la CENI et ce que nous donne cette direction nationale des statistiques qui est dédiée à cette activité, qu'est-ce qui peut paraître vrai? Moi, je crois que la CENI ne peut plus donner une garantie qui puisse amener les gens à croire en sa sincérité.
Qu'est-ce que vous demandez? Vous voulez dire qu'il faut démettre également, dissoudre la commission électorale qui...
Je ne prendrai pas le risque d'aller jusqu'à ce niveau, mais elle a prouvé ses limites.
Mais puisque c'est vous qui dites que vous n'avez plus confiance en la commission électorale.
Elle doit en tirer les conséquences. C'est-à-dire que la CENI doit tirer les conséquences de ce qu'elle a eu à créer comme gâchis au niveau du fichier électoral. Et ça se résume en deux termes. Ou elle se démet, ou on la démet.
Francis ? On peut... Francis, vous êtes là ?
Oui, allez-y. Vous pouvez...
Oui. Non, je voulais peut-être qu'on écoute un dernier mot de notre confrère Serge. Hein,
mais avant cela, j'aimerais poser quand même une question à Abdoul Gadiri Diallo, une question plus générale. Hein, parce qu'il y a deux semaines, donc, le président guinéen, en annonçant le report des élections, précisait que ce report ne devait pas excéder un délai de 15 jours. On voit bien, évidemment, désormais que ce délai sera forcément dépassé. Est-ce que tout ça n'amène pas à se poser la question, je dirais, aujourd'hui, sur la valeur de la parole présidentielle en Guinée? Et dans ce contexte, qu'en est-il de l'autorité de l'État? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une érosion de l'autorité de l'État?
C'est une érosion totale de l'autorité de l'État. Si déjà, le président de la République, qui est censé être le garant de la Constitution guinéenne, qui est une institution, comme toutes les autres institutions qui font un état de droit, si sa crédibilité est mise en question par des incohérences qui ont été découvertes sur un dossier qu'il avait défendu de manière tout à fait
En tout cas, la francophonie avait parlé d'un processus électoral jugé problématique, près de 2,5 millions de noms d'électeurs.
Et la francophonie, s'il avait écouté la francophonie un peu plus tôt, peut-être qu'on n'en serait pas là. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il ne peut plus faire une déclaration qui amène les gens à croire que ce qu'il dit est sincère. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave dans un État.
Merci. Francis, c'est le temps de passer au prochain sujet. On n'a plus le temps de passer la parole à notre confrère Serge. On marque une pause.
Débat BBC Afrique, Africa Radio.
Avec Abdoul Gadiri Diallo, notre grand témoin, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, l'OGDH, et notre confrère depuis Ouagadougou, invité Serge Houlon, directeur de la publication du bimensuel L'Événement. On va parler justement du Burkina Faso. Rien ne semble pouvoir endiguer les attaques violentes contre les civils dans ce pays. Les victimes se comptent désormais par centaines. La diversité des auteurs présumés complique davantage encore la résolution de ce conflit d'un genre nouveau. Le 8 mars dernier, 43 personnes ont été tuées dans le nord du Burkina Faso, c'est le chiffre officiel, dans les villages de Denguila et Barga, et alors que des sources locales ont désigné des groupes d'autodéfense, des milices d'autodéfense comme les auteurs de cette tuerie, les autorités ont pour leur part présenté les assaillants comme, je cite, des hommes armés non identifiés. En tout cas, ces événements ravivent au sein de l'opinion des interrogations sur la responsabilité de ces groupes d'autodéfense qui se comportent comme des supplétifs de l'armée nationale et dont les exactions sont de plus en plus dénoncées par les observateurs. Je vais poser une première question à Serge Houlon qui est sur place à Ouagadougou. Alors Serge, entre les groupes terroristes ou djihadistes, les milices communautaires ou encore ces groupes d'autodéfense, on voit bien que les sources de violence se sont multipliées sur le territoire. Comment peut-on protéger les civils dans ces conditions quand on ne sait plus identifier les causes réelles des violences?
C'est toute la question, effectivement, bon, c'est ce qu'on vit sur le terrain avec la multiplicité en fait, des acteurs qui interviennent et qui sont source de sécurité. C'est la grosse question au niveau de la population et il y a de fortes attentes par rapport à l'État burkinabé pour essayer d'apporter des solutions pérennes, assez durables et beaucoup plus globales par rapport à ce dont on assiste jusqu'à présent. Mmh. Effectivement, bon, avec le groupe d'autodéfense, parce que c'est essentiellement le groupe d'autodéfense qui attire beaucoup les attentions et qui crée beaucoup plus de crispations, effectivement, à ce niveau. L'attention est assez vive et du fait d'un passé et du fait de la gestion aussi de l'État par ce groupe d'autodéfense-là, mmh. il y a beaucoup de crispations et beaucoup d'attention autour des actions de ce groupe d'autodéfense dont on ne sait s'il agit pour la sécurité de la population ou s'il agit pour, en quelque sorte, protéger des groupes et des communautés bien données.
Voilà. D'autant qu'on dit voilà, que ces groupes, hein, les Call the Way Go, hein, sont encouragés par certaines autorités officielles. Mais alors, il faut rappeler que c'est dans ce contexte quand même que le Parlement burkinabé a adopté en janvier dernier une loi qui instituait le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, chargés de lutter contre le terrorisme aux côtés de l'armée. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette initiative de l'État qui engage des volontaires armés, dont c'est pas le métier, hein, pour assurer les missions de défense nationale qui sont traditionnellement dévolues à une armée nationale?
Donc, il faut dire que là-dessus, car il n'y a pas d'amalgame possible à faire. Les corps c'est vraiment une entité à part et les volontaires.
Il n'y a pas de confusion possible.
Non, il n'y a pas de confusion parce que déjà sur le terrain, ce n'est pas ça. Les corps c'est vraiment une entité à part et le fait de recruter des volontaires et à travers la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, ça fait deux choses différentes.
Oui.
Effectivement, bon, on se pose la question, mais la réalité, c'est que le vote de la loi au niveau de l'Assemblée nationale est en quelque sorte une formalisation de ce qui se passait déjà sur le terrain, parce que les populations s'organisaient déjà et réclamaient à ce qu'on puisse les former ou les encadrer pour participer à la défense de la patrie. Parce que de plus en plus, le discours était de dire ça ne servait pas à l'issue d'une attaque, de vider tout un village et qu'on faisait un peu le jeu en fait des terroristes. Donc l'idée c'était de s'organiser au niveau de chaque communauté et d'apporter des réponses endogènes face un peu à ces attaques-là.
J'insiste
donc,
un peu sur
la loi sur les volontaires.
Oui. Pardon, allez-y, terminez.
Le vote de la loi sur les volontaires n'est que vraiment une formalisation, une officialisation déjà de ce qui se passait parce que ça et là, on a des localités au nord précisément où les populations s'organisaient et qui essayaient de contrer en fait des attaques terroristes, souvent avec des succès parce qu'on a eu des localités où des attaques ont été repoussées, où il y a eu des arrestations et des individus ont été arrêtés par les populations et remis en fait aux forces de défense et de sécurité. Maintenant, sur la question du Corwego, oui, ça c'est une autre paire de manches parce que c'est une autre affaire qui est là. Au niveau des Corwego, ils ont leur organisation propre, c'est des gens qui ont refusé de rentrer dans la République parce que c'est pas reconnu, c'est organisé comme une association, c'est pas reconnu officiellement. Ils portent des armes qui ne sont pas dans la majorité, sinon presque tous, ne détiennent pas des permis de port d'armes. Donc voilà des éléments, en fait, et leur méthode de travail à travers les services corporels et leur méthode expéditive pose problème, effectivement. Et c'est ça qui fait que ce qui était perçu comme une initiative citoyenne de prise en charge de la sécurité de la population est perçu de plus en plus comme des milices, des groupes, en fait, pour défendre les communautés bien
précises. Tentant d'imposer leur propre loi et propres règles.
J'insiste un peu sur la question avec notre grand témoin Abdoul Gadiri Diallo, parce que voilà, le fait de faire appel désormais à des volontaires armés pour lutter contre le terrorisme, est-ce que cela ne traduit pas en même temps les limites, hein, de l'action régalienne dans la lutte dans cette lutte, hein, contre les groupes armés non étatiques?
Moi, je voulais juste relever quelque chose dont il faut se méfier. En fait, la constitution de groupes d'autodéfense risque de faire la part belle au groupe djihadiste. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin d'intervenir, ils vont laisser les Burkinabés s'entretuer entre eux.
C'est ça.
Parce que quelque part, ça va créer les conditions d'un repli communautariste et chacun va accuser l'autre, soit de par sa confession ou alors de par son ethnie, d'être responsable de ce qui est arrivé par-ci et par-là. Moi, je crois que c'est là où justement l'État est en train de perdre son rôle régalien. Il faut que l'État parvienne à contenir de tels mouvements pour éviter que ces mouvements ne fassent le travail que les troupes djihadistes veulent faire dans les pays. Dès à présent que les groupes djihadistes savent qu'il y a des massacres intercommunautaires, des massacres liés aux confessions religieuses, les groupes djihadistes vont rester tranquilles et laisser les populations burkinabées s'entretenir. C'est là où l'État doit prendre ses responsabilités.
Et je voulais juste rappeler, M. Diallo, que l'État, pour l'attaque de la semaine dernière, le week-end dernier, parle de groupes armés non identifiés, et c'est-à-dire que officiellement, il n'est pas dit qu'il s'agit des groupes armés, des groupes d'autodéfense qui sont derrière ces attaques.
En fait, je suis en train de dire tout simplement que par rapport à cette problématique liée au volontaire, la défense de la patrie, ou alors à ces groupes d'autodéfense, il faut qu'on fasse très attention. Les groupes djihadistes vont toujours opérer et ils vont toujours utiliser cette méthode très lâche pour atteindre des populations civiles innocentes. Mais il faut déjà que nous puissions contenir l'ensemble des mouvements qui se créent à l'intérieur du territoire pour que cela ne fasse pas encore un autre défi sécuritaire pour l'État et pour la population burkinabé.
Merci.
Je suis d'accord que les groupes djihadistes exercent leur fonction néfaste, mais il faut aussi qu'on évite que cela ne se transpose à l'intérieur en fonction des groupes qui se forment.
Mieux les contrôler. Serge, je vais revenir un peu sur vos propos. Vous parliez tout à l'heure du rôle des groupes d'autodéfense. Vous disiez que la gestion de ces groupes par l'État fait problème. Que reprochez-vous exactement à l'État concernant la gestion de ces groupes d'autodéfense? Et deuxième question, les volontaires recrutés en janvier dernier ont commencé à être déployés. Quel est véritablement leur rôle dans la lutte contre le terrorisme actuellement? Et pourquoi a-t-on l'impression qu'on ne ressent pas une réelle différence par rapport à la période où ces volontaires n'étaient pas encore déployés?
Non, sur le volet le premier volet de votre question, ce qu'on peut reprocher en fait à l'État par rapport particulièrement au Kholwego, c'est vraiment le laxisme, voire la complaisance vis-à-vis de gens, de citoyens qui agissent de façon illégale en dehors de la République.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas poursuivis, il n'y a pas d'enquête. Une fois que ces accusations sont formulées contre ces groupes d'autodéfense, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de poursuite. Serge, allô, êtes-vous là?
Oui, je vous reçois.
Oui, je vous demandais, quand vous dites que le laxisme de l'État, cela, comment se manifeste ce laxisme?
Non, c'est ce que j'étais en train de dire, c'était pour de relever le fait. Ce sont des citoyens qui s'organisent, qui portent des armes sans permis, permis de port d'armes, qui interpellent d'autres citoyens, qui subissent des sévices corporels sur la base de...
Qu'est-ce que vous auriez souhaité que l'État fasse pour montrer sa détermination à ne pas laisser faire ce type de situation?
Il faut ramener les gens dans la République. Tout individu ou groupe d'individus qui s'organise en association a besoin d'un récipicé pour exister, ce qui n'est pas le cas dans le cas des Kholwego. On a eu à l'époque l'ancien ministre d'État, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qui est l'actuel président du parti au pouvoir, le MPP, Simon Compaoré, lorsqu'il était ministre de la Sécurité, disait qu'il fallait organiser une opération spéciale de permis de port d'armes, ce qui n'a pas été fait. Donc vous avez des individus qui portent des armes de jour comme de nuit, allègrement, alors qu'ils n'ont aucune autorisation pour le faire. Ça pose déjà problème. Vous avez ces gens aussi qui arrêtent, qui détiennent, qui fouettent, qui font tous les métiers en fait de la chaîne pénale, qui font de la police judiciaire, qui font la justice, c'est eux qui répriment les gens, c'est eux qui infligent en fait les amendes. Donc vous avez ces dérives-là en fait qui sont constatées et ce sont des faits antérieurs même à la dégradation de la situation sécuritaire et dont les Burkinabés en fait déjà avaient mis le haut là. Donc la situation sécuritaire avec les attaques terroristes sont venues en fait accentuer en fait ces problèmes-là. Maintenant, si on ne le fait pas, évidemment, déjà de plus en plus, le discours c'est de dire oui, c'est électoraliste parce que c'est les individus qui sont organisés à l'échelle du pays. Ce sont des milliers de personnes et on l'a vu dernièrement, le drame du Nord avec les 43 personnes qui ont été tuées. D'aucuns estiment que c'est la conséquence en fait de Yirgou, où il y a eu une centaine de personnes selon les chiffres du collectif contre l'impunité et la stigmatisation. D'aucuns estiment que c'est la mauvaise gestion de ce drame-là en janvier 2019 qui a entraîné en fait ce problème.
Des représailles. Donc, alors maintenant, pour revenir, on n'a plus beaucoup de temps, Serge, pour revenir sur l'efficacité de ces volontaires déployés depuis janvier, leur présence arrive à faire la différence? Est-ce qu'on ressent cette différence depuis que ces volontaires sont déployés?
Des échos qui parviennent, c'est que c'est mis en œuvre actuellement, tout n'est pas encore opérationnalisé, parce que c'est organisé dans chaque secteur, dans chaque village, c'est ce qui est prévu. Il est prévu dans chaque secteur et village d'avoir au maximum 8 personnes conforme au bout de 14 jours pour pouvoir manier les armes. Et pouvoir, c'est considéré comme en quelque sorte des supplétifs ou des adjoints en fait des forces de défense de sécurité. Ce sont les gens qui sont mis en avant. Le discours officiel se dit oui, ça permettra aux forces de défense et de sécurité de recentrer en fait sur leur mission première, et ça permettra aussi de s'éparpiller, ça évitera de s'éparpiller et d'avoir un objectif beaucoup plus précis. Ça et là, on a quelques résultats, mais avec la situation au nord et même dans ce qui se passe au centre-nord, il y a quand même des accusations en fait d'exécution au sommet, de bavures et de dérives qui sont impliquées en fait à ce groupe.
Francis, je voudrais bien poser une dernière question rapide à notre invité. À moins que vous souhaitiez le faire, Francis.
Non, je veux quand même pas qu'on ferme ce dossier, ce thème, sans parler de la situation humanitaire, parce que Serge Houlon, tout ça se passe quand même sur fond de drames humanitaires. Hein. On parle quand même de plusieurs, enfin près de 800 000 personnes qui ont fui leur domicile désormais, des personnes sans abri, confrontées à la malnutrition. On indique, l'action humanitaire indique aujourd'hui chez vous, dans votre pays, que 2 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. Est-ce que l'État prend conscience réellement de ce qui ressemble de plus en plus quand même à une tragédie humanitaire dans votre pays, au-delà des violences?
C'est vrai qu'il y a des initiatives ponctuelles, ça et là, on gère au cas par cas quand il y a des situations d'urgence qui arrivent. Une réflexion globale, en fait, serait menée selon le ministère en charge de l'action sociale. Mais ceux qui vivent cette situation-là se posent des questions et effectivement, on se demande ce qui anime en fait l'appareil d'État et les acteurs politiques, toutes tendances confondues, opposition comme majorité, ce sont les ambitions électoralistes qui animent les gens. On constate que l'énergie, la ferveur avec lesquelles en fait, ces acteurs-là s'agitent pour les élections en novembre prochain, on se demande effectivement si on prend conscience en fait la gravité de la situation, parce que vous avez des villages entiers qui n'existent plus au Burkina. Mais malheureusement, dans certains endroits, il y a avoir un peu de discours politique. Ce sont souvent des actions d'éclat ou bien l'attention est beaucoup plus portée un peu sur l'enrôlement électoral qui se déroule présentement et les perspectives d'élection de novembre prochain.
Donc, merci beaucoup, Serge.
À quelques heures, pour certains Burkinabés, effectivement, la préoccupation est beaucoup plus électoraliste que les intérêts des populations.
Merci. Sans transition, Francis, on va passer au prochain sujet. On n'aura pas le temps de parler de la grogne des fonctionnaires au Burkina Faso, toujours cette semaine, qui dénonçaient l'imposition des indemnités et primes sur leur salaire comme effort de guerre. Dernier sujet, Francis, c'est le coronavirus. Le nombre de pays africains ayant enregistré des cas ne cesse d'augmenter. Dernier en date, la Côte d'Ivoire, au moment où nous enregistrons cette émission. Et tous, mais aussi ceux qui n'ont pas encore eu des cas confirmés, mettent en place une série de mesures, soit pour contenir la propagation du virus, soit pour empêcher son entrée sur leur sol. Parmi celles-ci, le confinement des cas et contacts suspects, des contrôles de température des passagers à l'arrivée dans les aéroports, les campagnes de sensibilisation tous azimuts, mais beaucoup n'ont pas, comme l'Angola ou les États-Unis, par exemple, interdit les vols arrivés des pays les plus touchés. Je commence avec vous, Monsieur Gadiri Diallo. Comment s'organise la riposte en Guinée, votre pays? Et je rappelle que la Guinée n'a pas encore de cas confirmés.
J'avoue que la riposte qui a été organisée cette fois-ci est encore meilleure à ce qu'on a connu lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Ebola. J'ai été agréablement surpris de constater qu'au niveau des ports et aéroports, il y a un système de contrôle strict. Mais ce que je ne peux pas garantir aujourd'hui, c'est un peu les entrées et les sorties liées un peu au mouvement des populations. La Guinée est un pays qui reçoit des compagnies aériennes venant généralement d'Afrique, d'Europe, et seulement peu d'avions et de compagnies aériennes venant d'Asie. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous estimons qu'avant que ces compagnies ne se posent en Guinée, les passagers sont passés par des filtres. Et ce qui fait que nous estimons que le risque est moins important en Guinée qu'il ne le serait par exemple dans des pays à grande vocation touristique comme le Maroc, la Gambie, le Sénégal et autres.
Donc vous pensez par exemple que l'Angola qui a interdit des vols au départ des pays les plus touchés exagère un peu. Est-ce que vous diriez que le fait de ne pas interdire les vols venant des pays où il y a eu un fort taux de personnes contaminées est une faille ou plutôt vous considérez que c'est une attitude responsable de la part des autorités guinéennes et des pays africains en général?
Bon, je ne dis pas que l'interdiction des vols n'est pas une bonne mesure. Mais je veux juste dire que le cas angolais peut être peut-être différent du cas guinéen. C'est que la quasi-totalité des compagnies aériennes qui s'opposent à Conakry passent par des pays où le filtre est déjà mis en place. Donc c'est dire qu'il n'y a pas de vol direct venant d'un pays à un autre, sinon des pays comme la France, la Belgique et autres. Et la plupart du temps, le filtre qui est mis en place au niveau de l'aéroport international de Conakry, par exemple, permet de se rendre compte si la personne présente des signes ou si elle ne présente pas des signes. Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur ceux qui interdisent les vols, mais je me dis que peut-être la chance que la Guinée a, c'est que la quasi-majorité des vols qui passent en Guinée passent toujours par un filtre antérieur avant d'être en Guinée.
Merci.
Ouais. Abdou Gadiri Diallo, l'Afrique reste à ce jour le continent où on compte le plus faible taux de contamination de cas déclarés. Alors il y a une question évidemment qui est très présente au sein de l'opinion. Est-ce que les systèmes de dépistage sont suffisamment opérationnels sur le continent aujourd'hui?
Il faut avouer que c'est aussi ça notre plaie. La grande plaie des pays africains, c'est que nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge aujourd'hui des cas aussi importants que cette épidémie. Et c'est là où on se dit que le système sanitaire africain est extrêmement faible. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas souhaiter excusez-moi, que ce virus se répande en Afrique, sinon ça va être très dangereux.
Francis, je propose qu'on écoute notre confrère du Burkina Faso, où le cas a déjà été détecté. Serge, l'OMS parle désormais de pandémie, on le disait, c'est-à-dire que le plus dur reste à venir. Autrement dit, il faut se préparer au pire. Que reste-t-il pour nos pays africains ou nos gouvernements à faire au niveau de l'organisation de la riposte pour espérer une propagation minimale de ce virus?
C'est la prévention et prendre des mesures, c'est pas plus que cela. Je pense qu'en la matière, prudence et mesures de sûreté, s'il y a des systèmes, il faudrait prendre des mesures drastiques. J'ai suivi qu'au niveau de l'Union africaine, l'agence spécialisée sur la santé anime régulièrement en fait, des points de presse à son siège à Addis Abeba, où on a essayé d'établir une cartographie, de faire des zones par rapport aux risques, en rapport avec les pays dans lesquels où c'est plus sévi, où on essaie de mettre les mesures en fait en place de contrôle. C'est déjà une bonne chose. Il faudrait envisager davantage au regard du fait que, quoique déjà le continent n'est pas touché comme dans les autres continents, il faudrait prendre les devants et essayer de minimiser les dégâts et contenir déjà les quelques cas qu'on a pour pouvoir les traiter et éviter la propagation. Et comme l'a dit M. Diallo à Conakry, au regard du système sanitaire en Afrique, il y a de quoi quand même à pouvoir mettre beaucoup plus l'accent sur la prévention que d'attendre la propagation dont la gestion sera encore plus compliquée.
Merci beaucoup. Le moment est venu d'écouter un message de nos auditeurs sur notre page Facebook. Message recueilli et livré par Didier Ladislas Lando.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Guinée, archiduc Théodore de N'Djamena estime qu'Alpha Condé est vraiment dos au mur et qu'il ne lui reste qu'à emboîter le pas du président Alassane Ouattara. De son côté, Joseph Goumou se demande si l'on se dirige vers des élections législatives et présidentielles couplées ou encore si l'on assistera au scénario de la RDC, c'est-à-dire donner 2 ans de plus au président pour nettoyer le fichier avant d'organiser les élections. question. Burkina pour Memphis Kiti, la fin des attaques contre les civils au Burkina Faso n'est pas pour demain. Pour lui, il faudra une organisation groupée d'autodéfense appuyée par les forces armées pour faire face à cette menace. Sur le coronavirus, notre auditeur de Ouida au Bénin affirme qu'aucun pays n'est plus à l'abri de la menace. Il faudra donc que chaque pays prenne les dispositions sanitaires nécessaires pour ralentir la propagation de ce virus. Merci à Habib Koli pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Africa-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
À vous bon aussi, Didier.
À vous. C'était Didier Ladislas Lando, bien sûr. Abdoul Gadiri Diallo, c'est la tradition dans cette émission. Une conclusion générale en vous inspirant peut-être des messages de nos auditeurs sur notre page Facebook.
Et Francis, j'aimerais bien, il y en a deux. Hein. Quelqu'un qui est un auditeur qui demande à Alpha Condé de faire comme Alassane Ouattara et d'autres, un autre qui dit qu'on pourrait peut-être envisager de prolonger de 2 ans le mandat du président Alpha Condé pour nettoyer le fichier électoral.
Abdoul Gadiri Diallo.
À mon avis, le glissement vers le scénario RDC est un glissement qui risque toujours de créer des problèmes en Guinée. Le président de la République a tout le temps pour essayer de mettre de l'ordre. Et si lui-même, il y met sa volonté et qu'il se mette dans la position que le président Ouattara a eu à prendre, le reste du travail ne sera qu'un petit travail de routine. Tout le problème qui se pose aujourd'hui, c'est au niveau de la volonté politique du pouvoir central d'aller vers quelque chose d'apaisé. Le président Ouattara a pris la décision de ne pas être candidat aux prochaines élections. Et je crois qu'il a le loisir aujourd'hui de se mettre à la tâche pour préparer ces élections, sachant bien entendu qu'il n'est pas candidat. De la même manière, si le président Alpha Condé veut créer les conditions d'un apaisement en Guinée, qu'il se mette d'abord dans une position qui ne va pas briguer un mandat. Un troisième mandat qui serait un mandat.
Et le dire sans ambiguïté.
Et le dire sans ambiguïté, ne pas dire que ça dépend du parti ou du peuple. Le peuple s'est suffisamment exprimé et on l'a vu. Tout le travail qui lui incombe maintenant, c'est d'assainir le fichier électoral et de léguer à ceux qui viendront après lui une situation claire.
Merci. Abdoul Gadiri Diallo, merci d'avoir été notre grand témoin dans cette édition. Président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, merci beaucoup. Merci à notre confrère Serge Houlon, directeur de la publication du bimensuel L'Événement, auteur de l'ouvrage intitulé « Comprendre les attaques armées au Burkina Faso, profil et itinéraire des terroristes ». C'est paru chez Émile Sia éditeur. L'émission a été réalisée à Dakar par Alioune Badaran Diaye, régie technique assurée à Paris par Hugo Vallière. Chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez grand soin de vous et bon week-end à toutes et à tous. Bon week-end à vous, Liliane, et à bientôt.
Merci Francis Laloupo. Je vous retrouve dans 2 semaines et gardez bien la maison comme d'habitude. Je n'ai aucun doute là-dessus. Au revoir.
Au revoir.
Bon week-end à tous.